Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous accueillir pour un masque et la plume, de vous accueillir au théâtre de l'Alliance française, un masque consacré au cinéma avec les supercalifragilistiques critiques. J'ai nommé, et je l'ai dit, Daniel Lehmann de Bande à Part, Michel Simon, Michael Simons de Positif, Eric Neuhoff du Figaro et Jean-Marc Lalanne des Arts Incorruptibles, journal dont il vient de prendre cette semaine la direction de la rédaction. Bravo, monsieur le directeur, pour cette très belle... en plus, il se fait applaudir en plus.
Tous les lecteurs qui sont
là. Et ce soir, on parle de trois films signés par des acteurs, Rupert Everett, Paul Dano, Louis Garrel, mais également de l'Empereur de Paris, du retour de Mary Poppins à la demande d'Éric Neuhoff, de Maya, et si on a le temps, quelques mots de grâce dans le courrier de la semaine à propos d'Amanda, de Michael Herz, Georges de Lyon trouve ce film gentillet, mais sans grand intérêt à part la prestation de Vincent Lacoste. Dommage, le sujet du deuil aurait pu être mieux traité. Christophe Maria de Sainte-Foy-les-Lyons n'a pas été une seconde ému par Amanda, film lénifiant et désincarné. Quant à Vincent Lacoste, ses scènes de pleurs frisent le ridicule. Mais peut-on critiquer un acteur qui a la carte ? Au contraire, Philippe Poitier de Paris juge Amanda émouvant, beau, lumineux, extrêmement pudique. Amanda, qui rappelle les films d'Éric Rohmer et Nanni Moretti, est une œuvre immense qui, bien que triste, donne de l'espoir. Madeleine Bruchet a trouvé Amanda très sensible. Et la petite Isor Multrier est très émouvante. Par moments, on pense à Brigitte Fosset, enfant. Alice Lartigue de Bayonne se demande même comment cette petite fille a pu si bien entrer dans un tel personnage. Et Lucas Loubarès, qui habite la Seine-et-Marne, nous écrit en précisant d'emblée qu'il est de parti pris puisqu'il était assistant réalisateur sur Amanda, effectivement. L'autre jour, mon fils me demandait, nous écrit donc Lucas Loubarès, me demandait ce que c'était un chef-d'œuvre. Je lui ai répondu que c'était une œuvre qui laisserait un vide immense si elle n'existait pas. Je ne veux pas parler de chef-d'œuvre à propos d'Amanda, j'achèverais de me discréditer, mais ce qui est certain, c'est qu'Amanda me manquerait terriblement. Voilà, à propos de Pupilles de Janeri, Bruno Alice des Sables d'Olonne nous écrit « Merci mon masque pour ton unanimité à saluer Pupilles, c'est tout comme tu as dit, fin, intelligent, délicat, très bien écrit et mis en scène ». Arnaud Sanquer trouve Pupilles populaire au sens noble du terme, formidablement documenté et interprété. Ce film vieillit merveilleusement en moi et je ne peux tomber sur un extrait du film sans que mes yeux ne se transforment en ruisseaux. Et Jean-Jacques Coriot d'Aix-en-Provence a trouvé l'étau musicalement un calvaire pour l'amateur de rock que je suis. Une affaire de famille de Kore-eda ennuyeux. Voilà un Palme d'Or qui devrait aller prendre des leçons de montage auprès de Jeanne Herry, dont le film Pupille, de loin le meilleur film de la dernière émission, a parmi toutes ses qualités un montage absolument parfait. Enfin, Thierry V nous interpelle à propos de Netflix. Cher Masque et la Plume, dimanche dernier, j'avais espéré que tu consacrerais au moins 5 minutes au Lion d'or de Venise, mais tu as préféré l'ignorer. Pourtant, Roma d'Alfonso Cuarón est l'un des meilleurs films que j'ai pu voir cette année. Même sentiment, et j'ai reçu d'autres lettres dans ce sens, d'Omar Marakchi qui me dit « Notre plaisir est de vous entendre parler de films et qu'importe leur support de diffusion ». Il faut dire que Roma, même visionnés sur un smartphone vaut plus que les bonnes intentions dans la salle la mieux équipée de France. On l'a pas ignoré, c'est simplement que j'ai posé très sincèrement la question aux autres critiques de la précédente émission. Il se trouve que personne ne l'avait vu, mais s'il l'avait vu, on en aurait parlé. Donc il n'y a pas de censure, il y a simplement... Vous, en revanche, vous l'avez vu, Romain, les uns et les autres, le Quaron ? En quelques mots, vous le conseillez ou pas alors ?
Alors, moi,
même
pas
si
du
c'est
tout.
Sur Netflix.
Non, moi, je n'aime pas du tout le film. En même temps, je pense effectivement qu'il faut en parler, que c'est évidemment du cinéma et que le critère ne doit pas être la distribution d'un film en salle. Après, moi, je trouve le film épouvantable. Je suis assez isolé dans cette situation. Mais pour moi, c'est vraiment le faux chef-d'œuvre. On parlait tout à l'heure de la définition de ce qu'est un chef-d'œuvre. Et pour moi, le vide immense dont parlait notre auditeur, il est à l'intérieur du film et il n'est pas du tout ce que laisserait le film s'il n'existait pas. Je trouve que c'est un sommet de formalisme vaniteux, mais je pense que tout le monde n'est pas d'accord ici.
Un mot d'Éric ?
C'est un très beau film, et hélas, il faudrait le voir en salle parce que c'est magnifique et sur un petit écran.
Alors aux États-Unis, j'ai reçu du courrier
d'auditeurs
américains et qui me disent qu'ils l'ont vu en salle.
Oui, mais c'est le paradoxe, c'est que Cuarón n'a pas pu trouver l'argent auprès des studios pour tourner ce film autobiographique sur son enfance à Mexico, et que ce film, qui est très très beau visuellement, est obligé de passer sur des timbres-poste, c'est le monde à l'envers.
Beau film ou...
Magnifique, et on a eu la chance, il y a eu quelques projections en salle à Paris.
Mais pour les critiques alors ?
Pour les critiques.
Ouais. Ah,
donc,
pour les critiques.
C'est une injustice folle, parce qu'effectivement, sur un grand écran, oui, ça dure 3 heures, et oui, on n'est jamais, je crois, j'ai eu le sentiment d'être à l'intérieur même d'une famille, de vivre la vie d'une famille, de vivre ses vies avec une proximité, avec une intimité absolument extraordinaire. C'est un film vraiment important.
Michel ?
Je ne vais pas surprendre Jean-Marc, parce que j'ai trouvé ce film magnifique. Un noir et blanc, et surtout un sens de l'espace tout à fait exceptionnel, et effectivement très esthétique, au sens où la mise en scène est très importante, mais elle se fait oublier. Je ne pense pas que les gens automatiquement remarquent la mise en scène, mais elle
Moi
est
Moi, je trouve qu'elle écrase le personnage et le sujet, au contraire.
En tout cas, il est sorti aux États-Unis parce qu'il est candidat aux Oscars et que les réglementations aux États-Unis ne sont pas sévères.
C'est-à-dire que pour être aux Oscars, il faut être en salle ?
Il faut être en salle. Cela dit, moi, je défends la chronologie des médias qui a sauvé l'exploitation des salles en France. Je suis contre Netflix, mais je dois dire que, en tant que critique, je suis obligé de rendre compte d'un film pareil.
Donc, c'est Roma de Cuarón et c'est, pour l'instant, en tout cas, exclusivement sur Netflix. Un nouveau Vidoc 1. Après Harry Bord, Depardieu, Claude Brasseur, Vincent Cassel s'empare du rôle, il faut dire légendaire, dans L'Empereur de Paris de Jean-François Richer, avec aussi au générique Patrick Chesnay, qui joue le directeur de la Sûreté, Fabrice Luchini en Fouché. Est-ce qu'il y a un film sans Fabrice Luchini ? Non, pour l'instant. Olga Kurylenko en vraie fausse baronne de Giverny, Denis Lavant, Denis Ménochet et même James Thierry, le film... s'ouvre par une très violente mutinerie de galériens au fond d'un bateau. Vidocq, vous le savez, s'en échappe, débarque à Paris, où il est arrêté pour un meurtre qu'il n'a pas commis, et signe un contrat assez dégueu, il faut dire, d'indic avec le chef de la sûreté, puisque sa liberté, il l'obtient en combattant désormais la pègre qu'il connaît par cœur. Et c'est ainsi que l'ancien bagnard devient, sous le règne de Napoléon, le premier flic de France. Cassel, qui aime les rôles physiques, est servi. Jean-François Richer, je rappelle quand même, Ma cité va craquer, a reconstitué évidemment en image de synthèse le Paris de l'Empire, sans oublier de montrer le peuple qui souffre. Ça dure 1h50, il y a d'ailleurs pas mal de rééditions à cette occasion. Éric ?
C'est épouvantable, vraiment. Dès les premières minutes, on se dit, oh là là,
t'exagères.
Ah non, c'est terrible, c'est d'une lourdeur, c'est un film costumé, perruqué, amidonné, laqué, empoussiéré, c'est... tout ce qu'il ne faut pas faire. À chaque fois, la caméra est à l'endroit où elle ne devrait pas être. C'est d'une violence gratuite en permanence. Vincent Cassel tire à peu près son épingle du jeu, mais tous les autres, Luchini, on voit qu'il est en train de rigoler là dans son habit.
C'est très peu de scènes.
C'est très peu de scènes. Bah heureusement pour lui, parce que c'est pas ce qu'il a fait de mieux. Et tous les dialogues sont écrits au burin. Il s'est peut-être trouvé dans les mémoires de l'époque. Le Paris est reconstitué en images numériques, mais ça se voit tellement, c'est tellement moderne que quand on voit la construction de l'Arc de Triomphe, on a l'impression que les gilets jaunes vont venir taguer le monument. Et tout est comme ça. C'est pas Vidocq, c'est vide et toc. Et ça dure presque 2 heures, mais on a l'impression.
1h50. Ouais,
on a l'impression que c'est une série qui n'en finira jamais. Et la fin laisse augurer le pire, puisqu'on nous menace d'une suite. Non,
t'as pas la preuve.
On verra les résultats du box-office.
Un défilé devant l'Arc de Triomphe, ouais. C'est tout. Tu vois pas de.
Oui, mais on sent que peut y avoir quelque chose. Vidocq fait du ski, ou Vidocq contre Frankenstein.
Daniel.
Ah oui, là, on regrette Marcel Bluval.
Ah oui. Oh.
Non, c'est un film, bon, alors effectivement, Cassel et Richer, c'est une alliance qui dure, après Mérine, etc. C'est un film extrêmement énervé, c'est tout le temps...
Plutôt énervant aussi. Très violent, plutôt.
Brutal, je dirais.
Brutal, oui.
Voilà,
brutal.
C'est des bastons absolument permanents. Au bout d'une demi-heure de baston, on en a assez. Oui, on a compris que effectivement, il y avait du taf. Hein. Il fallait y aller. Bon.
Denis Lavoie étant pas le plus doux, hein, tendre. Hein. Assez violent.
Non, mais ce qui est... Bon, alors, reconstitution, en effet, assez laborieuse, mais assez, quand même, spectaculaire. Enfin, bon, c'est un film bien ficelé, mais on n'arrive pas véritablement. C'est un personnage magnifique, Vidocq, et c'est un personnage qui est dans l'inconscient collectif, effectivement, avec tous les films, avec toutes les séries, avec bon, on aime Vidocq, et là,
qui est quand même une crapule,
absolue,
hein.
Mais qui finalement a quelque chose de sympathique. Et Cassel se régale, il en fait quand même des tonnes, mais on lui demande de faire ça, donc c'est pas de sa faute. Mais il n'y a pas un moment d'émotion, il n'y a pas un moment, voilà, il se bagarre et bon, c'est bien fait, Jean-Marc. Très énervé.
Oui, c'est très décevant, d'autant plus que Richer a déjà prouvé que c'était un très bon cinéaste d'action.
Oui.
Et sur ce terrain-là, je trouve que le film est quand même.
Et puis même un cinéaste engagé, enfin qui.
Oui. Absolument, oui. Et de ce point de vue-là,
qui croit certaines causes quand même.
Il y avait une vision politique plus forte dans Mérine sur une crapule dans un monde profondément injuste. Qu'est-ce que ça peut produire comme ambivalence? C'est aussi le sujet de ce film-là, et ça n'aboutit qu'à un nihilisme que je trouve presque antipathique. Enfin, il y a une espèce d'apologie des milices privées que je trouve vraiment presque louche, en fait, idéologiquement. Une complaisance pour la noirceur, la violence, qui est vraiment un peu rance. Et surtout, plastiquement, je trouve le film assez ringard, très décevant. Christophe Gans, avec Le Pacte des Loups, ressuscitait le film de Capet d'Épée à la française à l'ère des jeux vidéo de manière beaucoup plus moderne et habile. Là, je trouve vraiment le film laid et ingrat.
Michel.
Oui, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense qu'il y a un film qui est sorti au début de l'année, enfin plutôt au retour des vacances, qui était Un peuple et son roi, où il y avait un vrai projet.
Ah oui, c'est très différent.
Et avec Denis Lavant aussi.
C'est une évocation historique. Oui, c'est une évocation historique. Un personnage historique. Mais il y avait un projet extrêmement original, avec des séquences très impressionnantes. Ici, je trouve le scénario est très fait, parce qu'il n'a pas de ligne directrice. On ne sort pas vraiment avec une image de Vidocq qui se défende. Et d'autre part, la mise en scène, je ne suis pas d'accord. Je trouve que Richer n'est pas du tout un grand cinéaste d'action. Dans les grands films d'action de Walsh ou de Fritz Lang, il y a un point de vue sur la violence. Chez lui, il y a une complaisance.
Là, très haut, là.
Mais oui, peut-être. Mais il y a un point de vue moral sur la violence qui est complètement disparu dans son cinéma, qui est une fascination pour le tabassage. Et à un moment, ça devient écœurant. Et je suis d'accord avec Jean-Marc, c'est très suspect.
L'empereur... On ne peut pas l'accuser de quoi.
C'est suspect. Je trouve que c'est un film qui est limite.
L'empereur de Paris de Jean-François Richer. Et je le disais, notamment à l'Archipel, on publie Vidocq du bagne à la préfecture de Bruno Roy-Henri et on réédite les mémoires authentiques de Vidocq sur ce film. Des réactions dans le public ici, à l'Alliance française, non. Alors on passe à Happy Prince, le premier film comme réalisateur de l'anglais Rupert Everett, avec Rupert Everett dans le rôle-titre, mais aussi Colin Firth, Emily Watson, Colin Morgan, Tom Wilkinson et même une brève apparition de Béatrice Dalle. Un film qui raconte les toutes dernières années d'Oscar Wilde, dont la société victorienne, vous le savez, a condamné l'homosexualité en lui infligeant 2 ans de travaux forcés. Il s'installe ensuite à Paris. Il voyage en Italie avec son amant Lord Douglas, dit Bozzy, et c'est Colin Morgan. Et il meurt misérablement dans une chambre d'hôtel de la rue des Beaux-Arts, pas loin d'ici d'ailleurs, à Paris en 1900, quand est le cinéma. Je rappelle que Rupert Everett a joué plusieurs fois Oscar Wilde au théâtre, non seulement à Londres, mais aussi à Paris. C'était dans mon souvenir à Chaillot. Ce qui donne aussi peut-être un peu un aspect théâtral à ce film, auquel on peut reprocher pour le coup un peu un manque de rythme. Ça dure 1h45 et vous me dites ce que vous en pensez, Michel.
Mais moi, j'en pense du bien. D'abord, c'est le film de comédien, c'est toujours intéressant. Ou bien c'est d'un narcissisme absolu et c'est, ça tombe dans tous les défauts. Ou alors, au contraire, quand on arrive à 60 ans et qu'on décide de passer derrière la caméra pour faire un film, c'est qu'il doit y avoir parfois une conviction profonde.
Parce que c'est la cause de toute sa vie.
Voilà, et je pense
que... Et Wilde est le sujet.
Voilà, et là, c'est le contraire de Vidocq, c'est-à-dire que je trouve que le personnage sort formidablement de ce film. C'est-à-dire, on est dans l'intimité d'Oscar Wilde. C'est un film sur le milieu homosexuel qui n'est pas du tout trash ni précieux. C'est un film, je trouve, d'une grande sensibilité. Les comédiens sont tous très bons et j'ai pas vraiment trouvé de grands défauts à ce film. Je dois dire qu'il m'a assez impressionné parce que je ne l'attendais pas. C'est vrai que Rupert Everett est un bon comédien, mais j'ai trouvé que ce film avait une...
T'as pas trouvé ça un peu trop académique?
Non. C'est un biopic qui n'est, je trouve, pas du tout académique. Il y a une scène extraordinaire à Naples, par exemple, où il y a une sorte d'orgie homosexuelle et il y a une vieille napolitaine qui rentre. Elle croit que c'est une orgie avec des femmes, mais il n'y en a pas. Alors elle n'a rien compris à ce qui se passait et elle ressort. C'est une scène très très drôle. Le film a beaucoup de qualité.
Daniel.
Oui, moi j'ai été touchée parce que effectivement. On a dans le souvenir un ravissant garçon qui était Rupert Everett. Et effectivement, il a eu une carrière empêchée, il l'a dit, parce que, il a dit qu'il était gay et ça n'a pas facilité sa carrière. Il a fait des propositions, il voulait tourner un James Bond gay. Enfin, je veux dire, bon, c'est quelqu'un qui a souffert quand même dans sa vie.
Ils l'ont fait, hein, avec Daniel Craig.
Oui, t'as raison. Mais et donc là, dans le personnage d'Oscar Wilde, il a une sorte d'empathie totale pour le.
Mais personne ne doute de sa sincérité, voilà. Encore une fois.
Non, c'est ça. Alors, je trouve qu'effectivement, sur les prothèses, le maquillage, la décomposition de l'homme, c'est un tout petit peu trop. Enfin, on n'a pas besoin tellement de ça. Il y a un moment où on souffre, on sent qu'il souffre.
L'image est un peu ténébreuse.
Voilà. Voilà. Mais je trouve qu'il y a une telle sincérité, une sorte d'autobiographie cachée là-dedans qui est émouvante.
Éric.
Bon, on voit bien ce qui a plu à Everett là-dedans. C'est le film de sa vie et le rôle de sa vie. Ça. Ouais. On sent que...
Mais là, on se répète pour l'instant. Hein.
Oui, mais on sent que son Wilde mériterait un Oscar pour lui. Ah. Ouais. Non, mais le film est très intéressant, avec quelque chose de pourri, j'ai trouvé, de vénéneux, de sale.
Jusque dans l'image.
D'énervé, ouais. Oui. Ben oui, avec quelques afféteries. Et on voit bien que Rupert Everett se roule dans son personnage comme un cochon dans sa bauge. Il y a quelque chose de malsain qui lui plaît.
L'image, la métaphore,
c'est très troublant,
l'allégorie.
Je trouve. De voir quelqu'un s'immerger à ce point-là. Il a mis 10 ans à pouvoir monter son film et ça sent, c'est vraiment la nécessité. À mon avis, ce sera son dernier film. Je pense que ça ne va pas marcher, mais c'est un film très très bien fichu, nécessaire pour lui et pas indispensable pour nous, mais quand même utile.
Jean-Marc.
Oui, je vais pas non plus tellement faire avancer, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Même les défauts du film, notamment que, pour le coup, c'est pas un très grand dandy de la mise en scène. La mise en scène, elle est quand même peu plate, et lorsqu'il tente des choses avec des images un peu mentales, c'est un peu moche, mais malgré tout, ça donne ce caractère de mauvais goût et de saleté, qui finit par devenir expressif et servir le sujet. Lui, il est vraiment génial, et cette idée d'autoportrait à travers une figure aussi énorme qu'Oscar Wilde, c'est vraiment son objet, il y a quelque chose de très palpitant et de très vibrant dans ce qu'il a fait. Le film est vraiment très touchant.
Donc c'est Oscar Wilde de Rupert Everett. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film? Non. Eh bien, on passe à un autre premier film réalisé par un acteur. Et à mon avis, ce ne sera pas le dernier. C'est Wildlife, une saison ardente de l'Américain Paul Dano. Avec Carey Mulligan et Jack Gyllenhaal, une saison ardente de Richard Ford, qu'on trouve en point, me semble-t-il, hein, Eric, était un roman très froid, sous un titre très brûlant. Il se déroule en 60, dans une banlieue pavillonnaire du Montana. Le héros et narrateur est un adolescent de 14 ans, Joe, garçon renfermé, solitaire, qui se prend de passion pour la photo. En tout cas, dans le film, il va apprendre à en faire. Dans le film, il a les traits du jeune Ed Oxenbould, qui sont pas d'ailleurs des traits forcément avenants, mais qui montrent bien ce qu'était ce garçon à cette époque-là. Et il va assister en quelques semaines, d'abord à la déchéance sociale de son père, Jerry, c'est donc Gyllenhaal, qui est viré du club de golf où il faisait de la maintenance, et ensuite au déchirement de ses parents, puisque la mère Jeannette, c'est donc Carey Mulligan, profite du vide laissé par son mari, parti combattre les feux de forêt pour se jeter dans les bras du concessionnaire de voitures de la ville. Bref, en une saison, il perd toutes ses illusions sur l'amour, sur la famille, sur le travail. Et on ne pourra pas, me semble-t-il, puisque moi j'avais beaucoup aimé ce roman à l'époque, on ne pourra pas reprocher à Paul Dano d'être infidèle au roman, film d'1h45. Jean-Marc.
C'est un film très réussi, extrêmement maîtrisé. Je trouve que le film est vraiment très bon pour montrer à la fois ce qui se transforme dans un microcosme familial et ce qui se transforme à l'échelle du monde. C'est-à-dire que tout à coup, un rapport entre les hommes et les femmes qui est reconfiguré, l'émancipation d'un personnage féminin mais qui se fait d'une manière pas du tout triomphante, héroïque, mais extrêmement douloureuse, qui accouche de sa propre liberté, mais dans une très grande souffrance, et au prix de beaucoup de casse autour d'elle. Et tout ça, extrêmement lié au point de vue d'un adolescent. Et il y a vraiment des trouvailles...
Oui, c'est lui le narrateur du livre, c'est lui le narrateur du film.
Il trouve vraiment l'équivalence en termes de mise en scène à ce processus romanesque de focalisation interne, avec des moments où il se passe quelque chose d'extrêmement important, mais qu'ils sont uniquement filmés du point de vue de l'adolescent qu'ils observent, et où on comprend uniquement sur le visage de l'acteur, qui est assez stupéfiant, ce qui se passe. Donc on sent vraiment qu'un cinéaste naît, ce qui n'est pas tout à fait le cas du film de Rupert Everett. Là, on sent vraiment un désir très fort de cinéma.
Absolument, pour ça je dis qu'il y aura une suite. Parce
ouais,
que...
vraiment, on voit vraiment quelqu'un qui... à tous les outils du cinéma, il les maîtrise remarquablement. C'est presque un peu corseté, ça serait la légère réserve que j'ai, mais le film est quand même impressionnant.
En plus, dans cette zone pavillonnaire, on a l'impression qu'elle est inhabitée. Oui. Il y a très peu de gens, ils se concentrent sur ces personnages. Eric.
C'est très bien, effectivement, mais ce qui est embêtant pour Paul Dano, c'est que son premier film a toutes les chances d'être son meilleur, là, parce qu'il a réussi son coup. On sent que là, il aura du mal à
se lui, quand même.
Il a l'intelligence de ne pas jouer dedans, en plus, ce qui est rare quand les films d'acteurs, ils aiment bien se montrer. Parce
contrairement au Wilde.
Ouais. Et non, le film est très fidèle à Ford, c'est un film d'une tristesse, d'une mélancolie.
Pour l'instant, être fidèle à Ford, c'est pas...
C'est une Amérique un peu à la Edward Hopper, là, ce côté crépusculaire. Puis c'est la solitude de ce gamin dans cette nouvelle ville où ils viennent d'emménager, qui regarde son père rater tout ce qu'il entreprend, mais avec une bonne volonté, une maladresse terrifiante. Et c'est aussi un film sur le moment où une femme se met à mépriser son mari. Et la tendresse là se transforme tout d'un coup.
Et après, elle lui préfère quand même une.
Oui, mais c'est dire la détresse de cette femme. Et là, Carey Mulligan, qui ressemble un peu maintenant, je trouve, à Sandrine Bonner, qui a le même sourire, trouve son meilleur rôle. Là, on la voit changer de vie, basculer, hésiter, à ressentir à la fois de la culpabilité et du désir sous les yeux du gamin, lui, qui sait que plus rien ne sera pareil, qui est un peu pris en otage parce qu'il ne veut pas trahir son père. Il assiste à toute...
Il y a une scène à la fin dans la maison où il voit ça, il voit le...
C'est un film très très américain sur l'adolescence, ce moment où on sent qu'on va se mettre à vieillir, qu'on s'en aperçoit mais qu'on n'a pas les mots pour le dire. Là, le film le dit très bien et c'est peut-être le plus beau film sur l'adolescence dans une petite ville américaine depuis la dernière séance de Bogdanovich. Je trouve là, c'est vraiment très très beau.
Daniel.
Oui, c'est formidable parce que c'est tout passe à travers le visage de cet adolescent qui n'exprime pas les choses. C'est-à-dire que c'est un film où tous les non-dits sont perceptibles. Et tout ce qui
il les exprime par la photo.
Par la photo.
Les séances de photo.
Mais ce qui se passe sur son visage, voilà, la dissolution de cette famille, sa mère qui effectivement va prendre sa liberté, et comment lui va grandir avec ça, c'est quelque chose qui est tellement pudique. Il n'y a pas de scène violente, il n'y a pas de grandes envolées. Non, tout est à l'intérieur. Comment quelque chose se détruit dans un décor qui lui-même n'a pas d'âme, et comment on grandit avec ça et comment on s'en sort. Et bien sûr, je ne la révélerai pas, mais la dernière image de ce film est une des plus belles que j'ai vues au cinéma depuis très, très, très longtemps et dit tout de ce film.
Michel.
Oui, tu l'as dit au début, je trouve que les trois meilleurs films de cette semaine, c'est trois films dirigés par des comédiens. C'est vrai que Paul Dano, on l'avait vu dans There Will Be Blood, on l'avait vu dans Prisoner, ah oui. Un très bon comédien. Mais moi, ce que j'ai aimé dans ce film aussi, c'est dans un cinéma américain qui est parfois très agité, avec des plans brefs, avec de la violence, etc. C'est au contraire la façon dont il fait durer les plans, sans excès. C'est pas une complaisance sur la durée, mais les plans ont une sorte de rythme absolument magnifique. Et puis aussi, c'est un film sur l'adieu à l'enfance, ce qui se combine avec le consentement au réel. À partir du moment où on consent au réel, on quitte l'adolescence ou l'enfance. Et ce film le rend merveilleusement bien. J'ai pensé à des films américains des années 60, comme des films de Robert Mulligan, par exemple, des choses comme ça, où il y a vraiment une lenteur, mais jamais complaisante.
Wildlife, donc le premier film qu'on vous conseille tous de Paul Dano, et pensez à lire, si vous ne l'avez pas lu déjà, ou même à relire, le roman, très beau roman de Richard Ford, Une saison ardente. Le retour pour les fêtes de Mary Poppins, je le disais, avec Emily Blunt dans le rôle de la nurse fantasque que tenait Julie Andrews, vous le savez, avec Lin-Manuel Miranda, Emily Mortimer, Julie Walters, Ben Whishaw, encore Colin Firth. Est-ce qu'il y a un film sans Colin Firth pour l'instant? Je ne crois pas. Et même Meryl Streep, qui joue la cousine Topsy, sorti je ne sais d'où. Un film signé Rob Marshall, qui avait toujours rêvé, dit-il, de réaliser une comédie musicale originale pour le cinéma, et à qui Disney a donné les moyens de satisfaire son désir. Dans ce film, Mary Poppins revient, mais pour aider la nouvelle génération de la famille Banks. L'enfant Michael est aujourd'hui papa, il travaille dans la banque qui employait jadis son père et son grand-père. Il a trois enfants, sa femme est morte, et l'époque est dure, puisque c'est celle de la Grande Dépression de 29-30, et voici que le patron de sa banque, en plus, entame une procédure de saisie de la maison du veuf infortuné. C'est alors que débarque, pour le plus grand bonheur de Jean-Marc, que débarque Mary Poppins et son fidèle Jack, l'allumeur de réverbère. Tu es heureux?
Bah, par fidélité à Julie Andrews et à mon enfance, je ne l'ai pas vu.
Oh.
Ah, mais ça, c'était charge de directeur de la rédaction. Maintenant, tu n'as plus le temps de prendre du plaisir.
Il est devenu un vrai journaliste.
Tu vois. Enfin, je suis sûr que ça aurait été à la place d'Emily Blunt, ça aurait été Chantal Goya. Peut-être que tu serais allé. Tu serais allé, Eric.
Bah, c'est un peu ça. Hein. Non, j'ai été très sérieux. J'ai fait comme les enfants. J'y suis allé un mercredi après-midi en version française. Mais j'ai pas eu de chance parce que le film a commencé et c'était en anglais. Avec les chansons en anglais, les sous-titres. Je me suis dit, bon, tant mieux finalement.
Il y avait des enfants avec toi?
Pas beaucoup, non. Et tout d'un coup, une dame s'est levée, est sortie, est revenue. Et le film s'est arrêté. On s'est tout retapé depuis le début en français. Et là, on voit déjà que les chansons sont pas terribles. Mais les paroles en français, c'est dramatique. Chantal Goya à côté, c'est de Colette Magny, tu vois. C'est là. Et en plus, j'étais vraiment comme un enfant parce que je croyais que c'était un remake. Et pas du tout, c'est une suite. Oui. Alors, je comprenais rien.
Bah, c'est...
Ah non, moi, je croyais
que... Les personnages ont évolué quand même.
C'est une suite qui ressemble à un... C'est une suite qui ressemble à un remake, c'est pour ça.
Ouais, je sais pas.
Et t'es resté jusqu'au bout?
Oui, bien sûr, à cause de l'émission.
Ouais.
Non, mais je voulais voir s'il y avait une chanson qui allait être un peu marquante, mais il y a rien. Il y a aucun air qui reste en tête. Il y a une séquence avec Meryl Streep, Tintin Rouste, qui est affreusement gênante.
Oui, qui est gênante.
Il y a un petit clin d'œil à la fin parce qu'on voit Dick Van Dyke arriver, mais il y a aucun ballet comme la danse avec les pingouins de l'époque. Mais une fois qu'on y est, on peut rester, sauf si vos enfants vous disent « Allez, on s'en va ».
Oui, parce que moi je l'ai vu aussi, mais je n'ai pas vu d'enfants, donc je voudrais savoir.
Ben moi non plus, il n'y avait pas d'enfants. Les... Ouais. Il y avait des dames. Je sais pas pourquoi.
Hein. Il y avait des nurses. Ouais.
Ben peut-être. Elle n'avait pas de parapluie, mais non, c'est un film un peu inutile. Hein.
Michel.
Ben, je vais vous surprendre, parce qu'il y a oui. deux films.
Je sens que tu vas nous surprendre.
Alors, je vais vous surprendre. Il y a deux films programmatiques. On l'a vu, L'Empereur de Paris. Et ce film.
J'aime bien quand tu fais des synthèses au milieu du masque et la plume.
Absolument. Alors, L'Empereur de Paris et ce film aussi sont programmatiques. C'est-à-dire, l'un, c'est la grande biographie historique, etc. L'autre, c'est la comédie musicale. Je trouve que un ne remplit pas du tout son contrat et celui-ci le remplit. Alors, je dis pas que c'est un grand film, mais c'est comme les vitrines de Noël des grands magasins. C'est très sucré. C'est du.
Ah, c'est pas très sucré. Là, c'est.
Mais oui, mais Mais de toute façon, on disait ça déjà à l'époque. Les critiques assassinaient des génies comme Minelli ou Donen en disant que c'était sucré. On a toujours dit ça de la comédie musicale. La comédie musicale, surtout dans notre époque, est d'un sinistre épouvantable. On vit dans une époque horrible, une des époques les plus horribles du 21e siècle qui à peine
commence. Mais c'est pareil, tu ne soignes pas avec le retour de Mary Poppins.
Ce film donne un certain plaisir. Je ne dis pas c'est un grand plaisir de cinéma. Je trouve que les chansons ne sont pas si mauvaises que ça. Je trouve que les comédiens, Ben Whishaw qui jouait Keats, est à nouveau très bon. Et puis Emily Blunt est tout à fait.
Oui, mais l'autre, le partenaire, donc, était
encore une fois. Encore une fois, je ne dis pas.
Un vendeur de tacos.
Je dis pas que c'est mon film. Je dis pas que c'est mon film de la semaine. Ah bon. Que les gens qui aiment ce genre de divertissement musical, ils ne seront pas volés comme ils le sont devant L'Empereur de Paris.
Toi, Daniel, tu l'as vu en salle?
Je l'ai vu en salle, sans enfants, sans les petits enfants.
Non, je l'ai pas vu en salle. Non, je l'ai pas vu en salle. Et je trouve que vous êtes, sauf Michel, vous êtes bien grognon.
Voilà. Comment ça, grognon?
Oui. Ah. Voilà. Non, mais bon. Franchement, effectivement, on a la nostalgie du film de 1964. On a la nostalgie de Julian Andrews, mais le film est entièrement basé sur la nostalgie. Et la nostalgie est un sentiment agréable. Et on trouve, bon, effectivement, le numérique est arrivé, les ballets sont plutôt pas si mal que ça.
Il y en a deux qui sont très bons.
Deux qui sont même bien. Les séquences d'animation, il n'y a pas les pingouins, d'accord, mais il y a quand même un vase précieux qui est cassé et qui se...
Une baignoire, ça c'est pas mal, la baignoire.
Et qui se recompose en animation, et c'est agréable. Emily Blunt est charmante. Je veux dire, voilà, on éprouve un certain plaisir. Je ne sais pas si les enfants vont adhérer. Moi, j'ai passé un excellent moment nostalgique et agréable.
Mais pour moi, c'est important que vous soyez heureux, Michel et Daniel. Pour moi, c'est ça qui est important. Donc, si vous avez été heureux...
Alors, c'est peut-être un film pour les vieux, content, je ne sais pas.
Je suis content pour vous. Est-ce qu'il y a sur Mary Poppins des réactions, quelles que soient les générations? Oui. Bonsoir.
Bah écoutez, c'est un petit peu gênant ce film quand même, parce que quand on a vu le premier de Robert Stevenson qui est sorti en 64, c'était un film de magicien. C'était absolument fait par des artisans. Je veux dire, vous vous souvenez des matte paintings dans ce film qui était presque impressionniste, c'était fait par un artiste qui s'appelait Peter Allen Shaw, qui avait déjà travaillé avec Michael Powell avant, notamment sur Le Narcisse Noir et sur Les Chaussons Rouges. C'était magnifique. Et refaire ce genre de film aujourd'hui, est-ce que ça a un sens maintenant? Parce qu'aujourd'hui, avec les CGI, c'est horrible. Même l'animation est abominable. Faut signaler un truc, c'est que ça, c'est bizarre. Pas grand monde en parle, c'est-à-dire que les animations en 2D du film ne sont pas faites par des animateurs de Disney. C'est-à-dire que pour la première fois, ils ont fait appel à une entreprise extérieure pour faire les animations du film, parce que chez eux, plus personne ne sait faire d'animation 2D. Donc c'est pour...
Vous voulez dire chez Disney?
Ah non, chez Disney, plus personne ne sait faire d'animation traditionnelle. Ils sont tous formés pour faire des films en images de synthèse. Maintenant, ils ont fait appel à une entreprise extérieure, donc pour des pionniers de l'animation, c'est triste, quoi.
Merci pour votre jugement et en plus vos informations. Rien d'autre sur Mary Poppins? On passe à L'Homme fidèle, le deuxième film. Alors là, comme réalisateur après Les deux amis de Louis Garrel, co-scénarisé par Jean-Claude Carrière, un marivaudage moderne et triangulaire entre Abel, c'est Louis Garrel, qui d'ailleurs portait déjà ce prénom, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Les deux amis, et deux femmes, Marianne, Laetitia Casta, son épouse à la ville, et Ève, qui est Lily Rose Depp. Le film commence au cimetière, alors qu'elle enterre son mari Paul, Marianne retombe dans les bras d'Abel, qui est l'un de ses ex. Abel est sur ses gardes, surtout quand il apprend de la bouche du petit Joseph, qui a 9 ans, le fils de Marianne et de Paul, que sa mère a tué son père. Alors il dit, bon, je vais enquêter. Mais enfin bon, donc évidemment, Garrel, il est un peu mauvaise. N'empêche, les anciens amants se remettent en couple jusqu'au jour où Marianne pousse Abel à coucher avec la toute jeune Ève, et c'est Lily Rose Depp. Je ne peux pas en dire plus. Très joli film, qui emprunte pour moi à la fois aux Liaisons dangereuses et à La Nouvelle Vague, avec cette fameuse voix off qui revient tout au long du film, qui est un film bref, 1h15. C'est quasiment aujourd'hui un court-métrage dans les salles. Jean-Marc, est-ce que ta fonction t'a permis de le voir quand même?
Oui, je l'ai vu deux fois même.
Deux fois?
Oui, je l'ai vu deux fois, mais j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment un film excellent. Et le premier film de Louis Garrel avait du charme, mais me semblait pas complètement abouti formellement. Là, je trouve qu'il y a vraiment un saut qualitatif, une maîtrise vraiment impressionnante. Je pense que son travail avec le scénariste Jean-Claude Carrière a été extrêmement fructueux. Que Carrière...
Pour les deux.
Oui, enfin, il a déjà fait de très très beaux films quand même, Jean-Claude Carrière. Il apporte une sorte de logique, une rigueur, quelque chose de jardin à la française, à l'intérieur de laquelle Louis Garrel déploie sa fantaisie, qui donne quelque chose de très contrasté, très riche au film. Le film est constamment surprenant. Il est, comme tu l'as dit, très court, mais très plein, très dense et plein de péripéties sur très très peu de temps. Et il y a vraiment une logique de l'étonnement dans le film. Par moments, on est presque dans conversation secrète avec un enfant qui enregistre sa mère et l'amant de sa mère.
Le gamin est formidable.
Le gamin est génial.
Parce qu'il est très étrange, très mystérieux, à la fois inquiétant.
Inquiétant, absolument, et très émouvant par endroits aussi.
Très émouvant, oui.
Et cette idée que le foyer du film, c'est un enfant mythomane qui produit sans arrêt de la
passion. Attends, on ne sait pas si c'est les mythomanes.
Oui, c'est toujours très
très ambigu. Tu m'embêtes, Jean-Marc.
En tout cas, c'est un film sur la puissance d'imagination des enfants.
Oui. Ah non, c'est très important. Parce qu'il y a parfois, c'est à la limite du polar. Hein.
Oui, absolument.
Ça peut être à la limite du polar, Michel.
Oui, moi j'ai beaucoup aimé ce film. Alors évidemment, c'est un film qui sur l'héritage. Bon, Irina Louchansky qui a fait la photo, c'est la fille du grand chef opérateur de la Nouvelle Vague, Louchansky. Garrel, évidemment, c'est pas la peine de rappeler sa filiation.
Non, c'est ni le grand-père, ni le père.
Jean-Claude Carrière. Donc c'est un film qui peut-être, s'il avait été fait il y a 30 ans ou 40 ans...
Et Lily Rose Depp, non, elle n'a pas de...
On ne connaît pas.
Non, elle n'a pas d'histoire.
S'il avait été fait il y a 30 ou 40 ans, peut-être ça nous aurait paru un film de la Nouvelle Vague de plus. Mais là, il y a un charme réel qui se passe, c'est une sorte de, à la fois, il y a des côtés burlesques dans le film, la première séquence est très drôle et puis il y a aussi la comédie romantique, il y a le polar comme vous l'avez dit.
Enfin, la première séquence c'est celle de l'enterrement, c'est pas la
plus drôle. Non, il n'y a pas, film, pas l'enterrement, hein. La première séquence quand elle lui avoue qu'elle est enceinte,
ah oui.
Et pas de lui,
ah oui.
Et qu'elle le plaque.
Ah, juste avant l'enterrement.
Et qu'elle le plaque, oui, c'est la première séquence qui est très drôle parce qu'elle est très courte et moi j'ai été très très sensible à ce film parce que c'est lui-même aussi un très très bon comédien, il ne faut pas oublier qu'il a été Godard, il va être Dreyfus dans le film de Polanski. Donc, c'est quelqu'un qui a une grande versatilité dans le jeu et qui, dans la mise en scène, à mon avis, est très différent de son père, réussit vraiment un film
et de son grand-père.
Extrêmement attachant.
Eric ?
Ah bah, ça vous réconcilie avec le cinéma français, une chose pareille. Là. Il a tout fait, là, Louis Garrel. Il l'a écrit, il l'a mis en scène, il joue dedans. On se demande presque pourquoi c'est pas lui qui vend le pop-corn à l'entrée de la salle pendant qu'il y est.
Non, puis c'est. Et il offre un rôle à sa femme.
Ouais, ouais, ouais. Mais ça, c'est un truc de la Nouvelle Vague. Hein. C'est ce que Godard faisait avec Anna Karina, entre autres. Mais c'est un film qui est très truffaldien. Il y a un côté domicile conjugal.
Le triangle amoureux.
Un film d'amoureux, non.
Le triangle.
L'image est belle. Il y a un rythme permanent.
Plus c'est à côté de la clo quand tout d'un coup
aussi.
Il va coucher avec.
Il y a un côté
avec la.
Il y a même la petite. La réplique, c'est la guerre. Qui est quand même un clin d'œil appuyé. Non, il y a une légèreté, une gravité. C'est un film qui a beaucoup d'allant. Et c'est vraiment le meilleur de la Nouvelle Vague remis au goût du jour. Il y a presque un côté Chekhov, le gamin un peu manipulateur. Il aurait pu être inventé par Paul Chekhov à l'époque.
Ou par Henry James.
Ouais,
ce que savait Mézi. Ouais.
Et il y a un clin d'œil à Godard, là, à bande à part, là, la course dans les salles du Louvre, parce que Garrel cavale dans les salles de l'Assemblée nationale. C'est un film qui est vraiment très plein, c'est court, mais c'est vraiment une très très bonne surprise. C'est bien mieux que Les Deux Amis. Et...
Bien mieux, et sans se croire obligé de faire du noir et blanc. Comme,
oui, oui, voilà. Oui, non, c'est très bien ça.
Et c'est aussi une jolie promenade dans Paris.
Avec la musique qu'il a reprise de Violette et François, bizarrement.
Mais aussi d'Hôtel des Amériques. Il y a plusieurs musiques de Sardes qui reviennent dans le film.
Daniel. Oui, on peut penser aussi à Femme infidèle, mais tout pourrait tourner à la catastrophe, et puis non. Et ça, c'est d'une douceur dans la trahison, mais la trahison se retourne et finalement aboutit à quelque chose de nouveau. Il y a une utilisation extraordinaire de la voix off. En général, la voix off, il y a un moment où ça devient plombant, mais là, pas du tout.
Il y a trois voix off.
Il y a trois voix off. Il y a une sorte de concert de voix et d'affect. Il y a le tout à coup le virage hitchcockien et il arrive aussi à dominer ça. C'est un film vraiment de grand plaisir et je vais faire comme Jean-Marc, je vais le revoir.
Et on ne vous dira pas si la mère a tué le père.
Ah ben non, ah ben non.
Voilà, c'est L'Homme fidèle qu'on vous conseille, tous ici à la tribune. Le deuxième film, j'espère que c'est, il y en aura un troisième et un quatrième, de Louis Garrel, quand il aura le temps, entre ses très nombreux tournages. Autre film français, Maya, par Mia Hansen-Love, vous savez, tout est pardonné, un amour de jeunesse. Gabriel, c'est Roman Kolinka, qui est un grand reporter, qui a été Arrêté, prisonnier pendant 4 mois en Syrie, il est libéré en décembre 2012, c'est très précis. Il retrouve son père, son ex-petit ami, mais pas sa mère, qui vit en Inde, où d'ailleurs il a grandi. Et Gabriel part alors pour Goa, où il tombe amoureux de la fille de son parrain, la Maya, qui donne son titre au film et qui est jouée par Archie Banerjee. J'espère que je l'ai bien dit. Un film où on croise également Alex Descas, Judith Chemla, Johanna Terstege. Film d'1h47, qui m'ont semblé un peu plus que ça d'ailleurs. Eric.
Non, vraiment, alors là, c'est un film complètement atone. C'est transparent.
Et même atone.
Oui. Oui, tu as raison, c'est comme ça que
même
ça se prononce.
Atone.
Mais dès la première séquence.
Et c'est Jérôme qui te le dit.
On voit l'acteur, il sort de sa douche,
Colin Carr se sèche,
il s'habille. Il va se raser, il met de la mousse à raser.
D'où 1h45.
Eh ben, c'est exactement ça. Toutes les scènes sont comme ça. Et en plus, ce type est totalement inintéressant, vide. Et on comprend que ses ravisseurs aient fini par le libérer. Il n'en pouvait plus là-bas, en Syrie. Mais manque de chance, c'est nous qui le récupérons pendant 2 heures. Heureusement pour les Parisiens, sa famille et ses amis, il part pour Goa. Ou alors là, il tombe sur une petite Indienne.
Qui est jolie, hein.
Elle est jolie, puis le seul mot qu'elle sait dire, c'est dégueulasse. Comme si elle avait vu Jean Seberg dans À bout de souffle, parce que ça, c'est tout le côté mauvaise nouvelle vague de Mia Anselnov, là. C'est vraiment la caricature du film français à la mode. Et il se passe rien. On sait pas si elle remplit des creux avec des vides ou l'inverse, là-dedans. Là, on voit l'Inde comme sur des cartes postales. Et moi, j'ai 100 fois préféré, j'ai honte de le dire, le film de Lelouch avec Dujardin et Zilberstein, qui au moins était vivant. Là, c'est un poisson mort, ce film. Il se passe rien, ça commence jamais, et ça n'en finit pas.
Je me disais, sortir ça pour les fêtes, c'est un peu quand même du masochisme. Michel.
Oui, les auditeurs ont sûrement lu une série de très bonnes critiques de ce film, parce que Mia Anselnov, qui a eu du talent.
Ah, tu vas pas nous faire le triangle des Bermudes.
Elle a la carte. Donc, elle est intouchable. Mais ah bah, tout ce qu'on dit. Tout
très
ce
bon
dit,
papier dans le journal de Jean-Marc.
Pour un très très bon film.
Mais pas seulement. Partout. Donc, partout dans ce qui est branché. Mais effectivement, tout est, on a vanté la douceur, etc. En fait, il y a rien. Il y a pas de douceur. Par exemple, ce type revient de 1 an de prison en Syrie. Déjà, on devrait ressentir quelque chose. Quelqu'un qui revient d'un an de prison en Syrie.
Il devrait se passer quatre mois. Il était 4 mois.
Mais
là, il a passé 2 mois de tournage avec Anselnov. C'est pas marrant non plus.
Jérôme, t'as pas passé 4 mois de prison en Syrie. Je pense que tu le subirais plus durement que ce garçon. Ensuite, il part en Inde. Il y a une vision de l'Inde totalement conventionnelle. J'ai rarement vu un film sur l'Inde qui n'en tire rien. C'est un pays tout de même sublime avec des tas de films qui ont.
Oui, c'est une carte de contraste.
Il se passe rien.
Il y a de la sitar.
Il passe son temps avec cette jeune Indienne en moto, en voiture, en train. Enfin, c'est une série de voyages qui n'ont absolument aucun intérêt. C'est un film effectivement atone et qui est ennuyeux. C'est pas qu'il est vraiment mauvais, il est simplement terne et plat.
Jean-Marc ?
Non, moi je trouve le film absolument pas ennuyeux. L'argument « il ne se passe rien », je le trouve absurde. C'est-à-dire que vraiment, ce qu'est le film, c'est quelque chose qui est à peine perceptible. Et cette chose à peine perceptible, c'est une rémission, une reconstruction. Quelqu'un qui... c'est une convalescence. Et effectivement, ça se fait par tout petit déplacement, par des empêchements aussi. Et je trouve qu'il y a une sensibilité dans le cinéma de Mia Anselnov, et particulièrement dans ce film, où effectivement le récit est très très relâché, qui peut se donner le sentiment qu'il ne se passe pas grand-chose, sauf que ce qui se joue dans ce personnage, la manière dont il va se remplir du monde autour de lui, moi je trouve le film bouleversant là-dessus. Et la manière, ce qu'elle fait sur l'Inde, moi je trouve que c'est très fort, c'est-à-dire qu'elle montre effectivement la combinaison entre l'extrême séduction, mais aussi la très grande violence, et la façon dont elle oppose à la violence du monde, à sa fureur qui est sans cesse omniprésente dans ce qui se joue, et une douceur dans le regard qui rend encore plus forte et expressive la violence. Je trouve ça admirable et je pense que c'est un film extrêmement maîtrisé, sauf que il n'y a jamais rien de clinquant dans la mise en scène de Mia Anselnov, et c'est ce qu'il y a de plus subtil et touchant sur des nuances infimes qui fait tout le prix de son cinéma.
Daniel ?
Oui, le film, c'est l'histoire d'une convalescence.
Tu parles de qui là, du personnage ou de la réalisatrice ?
Non, elle n'a pas été malade, elle. Non, mais effectivement, c'est un ex-otage. Effectivement, il a pas eu l'air, bien qu'il consulte un psy, il n'a pas l'air vraiment d'avoir souffert. Mais tout ce qu'il fait, c'est-à-dire cette recherche, ce voyage en Inde, etc., c'est l'espérance d'une guérison, d'un retour parmi les hommes. Et on comprend le but de tout ça, et effectivement, on a du mal à le ressentir. On voit bien ce qu'elle a voulu faire. Je trouve que ça reste une sorte d'utopie gracieuse, le voyage en Inde, pas trop de tourisme. Bon, voilà. Ça devrait être mieux parce que le sujet est fort, parce que il y a beaucoup à dire sur cette façon d'essayer de rejoindre la communauté des hommes, et elle réussit pas tout à fait ce qu'elle veut
faire.
C'est
bien. Tu as fait des beaux efforts, là, Daniel. C'est bien. Maya de Mia Hansen Love, pas de réaction sur ce film. Et on termine avec un film sur lequel on va être relativement bref. C'est Grâce, du sud-coréen Hong Sang-soo, qui est un film de 66 minutes en noir et blanc, où une jeune femme incarnée par Kim Min-hee, qui est la muse du cinéaste, qui est sa Laetitia Casta coréenne, si vous voulez, s'attable dans un café pour écrire des bouts d'histoire sur son ordinateur, histoire dont on se demande évidemment si elles sont transcrites des conversations de tous les couples alentour. Je le disais, 66 minutes. Et là, je vous pose la question parce que j'ai vu une presse la semaine dernière dithyrambique et je comprends rien à cet objet. Je ne sais pas ce que c'est ni pourquoi c'est fait. Donc, j'ai besoin de vos lumières. Michel ?
Oui, alors, c'est vrai qu'Hong Sang-soo est un grand cinéaste.
Non,
mais il pousse un
peu
loin.
C'est pas ma question.
Non, il a fait des films magnifiques.
Mais je sais bien.
Mais maintenant, il tourne 3 ou 4 films par an. Il ferait mieux de faire comme son confrère qui a fait un chef-d'œuvre avec Burning. Il fait un film tous les 7 ans, mais peut-être un très bon film, ça se prépare.
Alors, Grâce.
Le dispositif est intéressant parce que c'est une femme qui vit à travers les autres, qui a cet ordinateur. Elle écoute ses conversations dans un café. Un homme qui se voit reprocher par une femme d'avoir conduit au suicide une autre femme. Un comédien qui drague une jeune femme, etc. Toute une série de conversations avec la musique de Lohengrin, de Wagner, de Orphée aux Enfers, de Offenbach, avec Schubert, Pachelbel, etc. Très mal enregistré. C'est une sorte de musique de fond où on n'entend pas vraiment la musique. Et je trouve qu'il pousse effectivement le bouchon très loin, c'est-à-dire il va dans le minimalisme, et ça plaît peut-être à une certaine critique parce que c'est un cinéma conceptuel, c'est un cinéma c'est un cinéma de dispositif, donc comme on n'en fait plus beaucoup,
bon. Alors,
effectivement c'est un dinosaure, mais je pense,
néanmoins
Hong Sang-soo est sur une mauvaise pente, même s'il fait encore des beaux films comme Seul sur une plage la nuit, qui était à Berlin, qui est un très grand film, mais là c'est la caricature de lui-même.
Tu m'as pas beaucoup éclairé, Daniel.
Oui, c'est une sorte de haïku coréen. Hein, c'est
mais
vraiment.
Pourtant, il y a très beau haïku.
Mais c'est très beau, oui, effectivement. Et ces variations sur le thème. Et moi, j'ai été tout à fait intéressée par ces conversations de café, par le patron de ce café qui effectivement met de la musique classique en fond dans un café. Forcément, c'est pas somptueux, c'est pas l'opéra, mais ces petites histoires. À un moment donné, on ne sait pas si finalement ce qu'elle tape sur son ordinateur est entièrement issu de sa propre imagination ou si c'est véritablement une captation sur les rapports entre les hommes et les femmes. Je trouve qu'une fois de plus, il dit des choses et moi, ces 66 minutes m'ont paru courtes.
Eric ?
Je vais t'obéir, hein, je serai bref parce que c'est un film que j'ai vu il y a quelques semaines. Et je l'ai complètement oublié.
Mais
complètement. Je suis même allé cet après-midi.
Mais il est fait pour ça, je pense.
Revoir la bande-annonce sur Allociné. Et je ne sais toujours pas ce qu'il y a dedans. À mon avis.
La bande-annonce, c'est déjà tout le film, parce que.
J'ai l'impression, mais.
C'est 66 minutes.
Ça a été vraiment l'ardoise magique. Dès que je suis sorti, j'ai oublié ça. Et c'est vraiment. Et il a tourné 97 films, je crois. Mais là, c'est le film de trop, hein, à mon avis.
Jean-Marc?
C'est un peu un film pour le fan club dont Sang-soo. Je pense que quand on admire son œuvre, il y a malgré tout un certain plaisir à voir le film.
Voilà.
Presque sur quelque chose qui est de l'ordre de l'atmosphère, de l'ambiance. On a envie de boire du soju avec eux dans ce café. Il y a une forme de séduction dans le film qui marche un peu. Moi, je l'ai vu dans un état vraiment de perplexité bienveillante. À la fois, j'avais une sorte d'empathie parce que j'adore Sang-soo et en même temps, un peu comme Michel, je me dis vraiment, il va très loin dans la miniaturisation et il miniaturise tellement son monde qu'à un moment donné, on va plus rien voir, quoi.
Bon, enfin, écoutez, je vous préviens, faites attention quand même. Hein. C'est Grâce de Hong Sang-soo. En tout cas, la seule chose que je puisse vous dire, n'y allez pas le 1er janvier. Allez, un conseil pour terminer. Il y a plein de bons films aussi qui sortent ces jours-ci. Jean-Marc.
Alors, un film de science-fiction qui est sorti il y a déjà 15 jours, qui s'appelle Mortal Engines. C'est un premier film de Christian Rivers et c'est produit par Peter Jackson. C'est une sorte de fable futuriste, mais à la Jules Verne, où on mélange à la fois des attributs du 19e siècle et quelque chose de l'ordre de la science-fiction. C'est dans un monde d'après l'apocalypse, où les villes sont sur des chariots roulants et se déplacent dans un grand désert après un désastre.
Les villes sont sur des chariots?
Ouais, c'est des immenses chariots. Londres se déplace comme sur un chariot antique. Enfin, ça mélange plein de choses de l'histoire de l'humanité. Et c'est très spectaculaire. Il y a des effets spéciaux vraiment très beaux. Et c'est aussi un film d'action. C'est un très, très grand plaisir.
Donc, en fait, le Brexit va commencer par un grand chariot. Vers Londres va disparaître.
C'est une grande actualité politique.
Le conseil d'Éric.
L'énorme album sur Mickey Mouse aux éditions Taschen. Là, c'est une somme. C'est comme si c'était un héros. Il y a tout sur Mickey. Il vient de fêter ses 90 ans. Et je ne sais pas comment les
autres... Il ne les fait pas, hein.
Il ne les fait pas. En plus, on retrouvait tous ces trucs-là. Il y a le moindre court-métrage, le moindre article, la moindre bande dessinée dans les pays du monde entier. C'est illustré magnifiquement. Et il y a une photo absolument sidérante à une Saint-Sylvestre, au Stork Club. Il y a Edgar Hoover, le patron du FBI, qui n'était pas un tendre, qui a un masque de Mickey à table. Et rien que pour ça. Non, mais le livre est magnifique. C'est le plus beau cadeau à faire en ce début d'année pour les petits et les grands.
Mon conseil, c'est un film qui m'a bouleversé, qui s'appelle Mon Père, le premier film d'Alvaro Delgado Aparicio, qui est une très belle et terrible histoire dans les Andes péruviennes d'un artiste itinérant qui peint des retables dans lesquels il met des figurines qu'il fabrique lui-même et dont le fils de 14 ans, qui va devenir son disciple, à qui il voudrait léguer son petit atelier de retables. Donc le fils va découvrir par hasard, une scène très très fugace, qu'il est homosexuel, et ce qui fait évidemment très vite scandale dans cette société à la fois rurale et très lointaine. C'est l'histoire d'une tragédie, mais avec toutes les couleurs vives de l'art brut que ces retables-là pouvaient donner. Je ne connaissais pas ce cinéaste,
premier film.
Cause, puisque c'est un premier film. Je connais mal le cinéma péruvien, mais là, je dois avouer que Mon Père, si vous pouvez le voir, j'espère que vous serez touché, et c'est signé Alvaro Delgado Aparicio. Le conseil de Daniel.
Alors, un film brésilien qui s'appelle La vie comme elle vient. Un film de Gustavo Pizzi, je ne connaissais pas Gustavo Pizzi, qui a coécrit ce film avec son ex-femme et qui est une actrice absolument géniale qui s'appelle Karine Telles. Et c'est une histoire de famille, une famille où tout va mal, où la maison prend l'eau, où les soucis sont épouvantables et où finalement la vie comme elle vient, la vie continue et l'amour subsiste et résiste parce que il circule et que voilà, c'est la vie comme elle vient. Et cette actrice est absolument inouïe et c'est un film triste et gai, juste et fort, et ça s'appelle La vie comme elle vient.
Le conseil de Michel.
Alors moi, c'est un livre. Alors il faut casser sa tirelire parce que c'est pas donné, mais c'est un livre assez extraordinaire. C'est des écrits complets de André Bazin, 2800 pages.
La recension 2800 pages.
2800 pages. La recension de 2700 textes de Bazin, c'est tout ce que Bazin, qui était sans doute le plus grand critique français de cinéma, qu'il a écrit, il est mort à moins de 40 ans, il a écrit sur une quinzaine d'années, 2700 textes, et lui, ce qui est particulier, c'est qu'il écrivait à la fois dans Le Parisien Libéré, dans France Observateur, dans Les Cahiers du Cinéma et dans Esprit, c'est-à-dire qu'il faisait les quotidiens, les hebdomadaires, les mensuels, et il écrivait de façon différente, évidemment, pour des lectorats oui. différents, et c'est absolument prodigieux avec des index et qu'en fait on retrouve toute la vie du cinéma sur ces entre 1900 il est mort en juste avant la nouvelle vague on sait que c'est il avait adopté François
il est mort si jeune ça
Bazin. Il est mort à 39 ans et il est mort l'année des 400 coups qui était son fils adoptif qui était Truffaut il a pas vu la nouvelle vague il en est quasiment le père mais je reconnais parce que c'est une leçon pour nous tous parce que jamais Bazin ne tombe dans la démolition facile, dans le snobisme, etc.
C'est pas notre genre.
Il y a toujours un regard généreux, parfois sévère, mais avec un équilibre dans l'écriture. Et c'est un ouvrage absolument incroyable.
Quel est l'éditeur courageux?
Macula.
Eh bien, tous ces conseils, y compris ce dernier, un peu coûteux, mais très
et lourd.
Précieux.
Et lourd.
Vous les trouvez sur le site du Masque à la Plume, France Inter. .fr, merci beaucoup Daniel Eman, Michel Simon, Éric Nohoff et Jean-Marc Lalanne pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam et ce soir à La Technique au Théâtre de l'Alliance Française et je la remercie, il y avait Stéphane Desmonts, Julien Bourdet, Tanguy Lecorneau. La réalisation était signée par Xavier Pestugia qui a déjà, je le vois en régie, mis son smoking pour demain, le prochain enregistrement du Masque et la Plume. Eh bien, il aura lieu en 2019. Ce sera le jeudi 10 janvier au Théâtre de l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail dans le 6e à Paris, pour deux émissions, l'une consacrée au livre, l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parlera de la rentrée littéraire. Bon réveillon à tous et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.